Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate!
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Pirate. J'espère que vous allez bien, je vous laisse tranquillement vous installer. C'est Florian qui vous parle ce soir. Et on va discuter travail social, grande précarité et autres joyeusetés. Quoi de mieux alors que de commencer par une petite musique. Welcome in the House of Fun par Juanitos.
Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun.
Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the deck. You do the swim. You do the twist.
Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun.
Welcome in the house of fun. Oh, in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, in the house of fun.
Welcome in the house of fun.
Oh, welcome in the house of
Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes bien sur Radio Pirate, je suis Florian et ce soir, pour m'accompagner dans notre voyage sur les flots, je suis avec Fiddle. Salut Fiddle.
Bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir sur Radio Pirate, c'est la première pour moi, donc moi je suis Fiddle. Et pour cette émission sur le travail social, je suis assistant de service social dans ce qu'on appelle la polyvalence de secteur, c'est-à-dire en service public local depuis maintenant bientôt 4 ans en Île-de-France.
Et également, pour nous accompagner, il y a Camille ce soir. Bonsoir Camille.
Salut Florian, salut Fiddle, salut les pirates. Alors moi c'est Camille et je travaille dans le social depuis 2-3 ans, dans une association qui accompagne des personnes sans domicile et qui propose de l'hébergement dans des studios éparpillés dans une ville en province.
Alors Fiddle, Camille, vous travaillez tous deux dans le travail social, hein, même si vous travaillez dans des domaines un petit peu différents. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, comme ça, deux mots sur ce que vous faites, votre quotidien? Parce que peut-être parmi nos auditeurs et nos auditrices, hein, tout le monde n'a pas forcément une idée de quelle forme peut prendre le travail social. Alors, je sais pas, Camille, peut-être si tu veux commencer.
Moi, dans l'asso où je travaille, il y a différentes activités, donc l'hébergement, où on va rencontrer des personnes sans domicile, bénéficiaires des minima sociaux. On les installe dans des appartements meublés et puis après, on fait des visites à domicile assez régulières pour voir si tout se passe bien dans le logement. Après, il y a tout ce qui est accompagnement social, donc à la fois pour les personnes qui sont hébergées par l'association, mais aussi pour celles qui sont orientées par d'autres partenaires. Donc, il s'agit de s'occuper de l'ouverture des droits, de l'accès aux soins, tant physique que psychique, des démarches avec la justice, parce qu'on a pas mal de personnes qui sont accompagnées qui font des peines de prison, plus ou moins courtes. Et j'en profite pour dire qu'il me semble qu'il y a une émission de prévue sur la question de la justice et du milieu carcéral, bientôt sur Radio Pirate. Et on effectue toutes ces démarches pendant les visites à domicile, avec des rendez-vous dans les locaux de l'association, ou alors pendant l'ouverture de l'accueil de jour.
Du coup, un accueil de jour, c'est quoi ?
L'accueil de jour, c'est une grande salle qui est dans nos locaux, qui est ouverte tous les matins de la semaine, où les personnes peuvent venir boire leur café, récupérer leur courrier, discuter avec leur référent social, etc. Et c'est un moment assez important qui a été mis à mal pendant le confinement, mais on en rediscutera sûrement un peu plus tard dans l'émission. Et pour terminer sur nos activités, il y a aussi les maraudes que l'on effectue toute l'année, plusieurs fois par semaine, dans une démarche un peu d'aller vers les gens.
Et voilà. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que c'est qu'une maraude, ce que vous faites dans les maraudes ?
Oui, alors pendant les maraudes, nous, on distribue des boissons chaudes et on est vraiment là pour créer du lien social. On distribue pas de l'alimentaire ni du matériel, genre des couettes ou quoi que ce soit, parce qu'il y a d'autres maraudes qui le font sur le territoire. Donc, c'est vraiment pour essayer de rencontrer les personnes, d'apprendre à les connaître et puis de les orienter au mieux selon leurs besoins.
Okay, bah merci beaucoup. Et donc, Fidel, toi, ton quotidien de travailleur social, ça consiste en quoi ?
Comme je l'ai dit, en fait, moi, je travaille en polyvalence de secteur. C'est un peu, si tu veux, l'image un peu plus classique de comment on voit une assistante sociale. Bon, disons comme ça, je ne sais pas si c'est très flatteur. Mais globalement, moi, je suis plutôt de l'accompagnement global, plutôt en individuel, dans une grosse institution, dans un service public. Là, moi, où je bosse, il y a trois équipes, si tu veux, donc l'équipe d'assistante sociale, ce qu'on appelle la polyvalence, la protection maternelle et infantile, et l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS, pour ceux qui ont connu la DAS, qui ont su ce que ça veut dire. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on a quand même une certaine pluridisciplinarité de personnel médico-sociaux. On a des puéricultrices, des éduques, des psys, des assistantes sociales, du coup. Moi, je suis plutôt un généraliste. J'ai pas forcément de public qui est défini. Moi, ma spécialité, c'est plutôt, si tu veux, mon terrain d'intervention, en fait. L'endroit où je travaille, c'est plutôt là où se font un petit peu mes connaissances. Moi, mon objectif général, ça reste l'accueil, l'orientation, l'écoute et l'info d'un public qui est tout venant. Après, si je rentre un peu plus dans les détails, en pratique, moi, c'est assez divers hein, ce que je peux faire. Ça va très bien de l'évaluation des situations de personnes adultes vulnérables, l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, les évaluations en protection de l'enfance par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les informations préoccupantes. Et plus généralement, je reçois voilà, des publics qui sont en situation de précarité budgétaire, familiale. Enfin, je réoriente. Voilà, le problème en étant généraliste, c'est que je réoriente beaucoup vers des services spécialisés, parce qu'effectivement, je connais pas mal de choses, mais j'ai pas vraiment d'expertise sur des domaines en particulier. Je fais beaucoup d'ouvertures de droits et je reçois beaucoup aussi de personnes qui ont des difficultés à interagir avec les administrations, les institutions. Parce que comme on l'évoquera aussi peut-être tout à l'heure, c'est vrai que bon, en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir des infos des différentes institutions. Nous, comme on est un guichet ouvert, on reçoit les personnes et les gens viennent nous voir par rapport à ça. Alors bon, on n'a pas forcément de moyens privilégiés d'interagir avec ces institutions-là. Je fais également ce qu'on appelle aussi des permanences d'urgence, c'est-à-dire voilà, je reçois beaucoup de personnes aussi qui sont en rupture alimentaire, rupture d'hébergement, qui ont des coupures d'énergie et aussi parfois des personnes qui sont en situation de violence intrafamiliale et violence conjugale. Dans tout ce que je fais, je peux très bien aussi bien demander des dossiers, faire des demandes d'aide financière, faire des dossiers administratifs, comme faire des visites à domicile et voilà, pas mal de choses en fait.
Oui, donc le terme de polyvalence n'est pas volé du tout, quoi.
Non.
Merci. Alors voilà, donc du coup ce soir on a voulu vous parler du quotidien des travailleurs et des travailleuses sociaux qui sont sous la pression, comme tout le monde, hein, de l'épidémie et du confinement. Alors on a déjà parlé d'autres métiers les lundis hein, qui sont actuellement fortement impactés par cette situation. Mais on oublie souvent et assez facilement que le travail social est en première ligne, et notamment en première ligne dans ces situations de crise. Donc aujourd'hui, on va parler, enfin, c'est surtout Camille et Fidel qui vont parler des conséquences de l'épidémie, du confinement, pour les travailleurs sociaux et travailleuses sociaux eux-mêmes, mais également des répercussions pour les personnes qui font appel à ces services sociaux. Alors du coup, voilà, les quotidiens de Camille et de Fidel vont me permettre, vos quotidiens vont me permettre de d'éclairer cette situation, ces situations sous des angles différents.
Radio Pirate.
Alors vous êtes bien sur Radio Pirate. Je suis avec Fidel et Camille pour parler donc travail social. Alors la période du premier confinement a souvent été un moment d'incertitude, de doute, d'adaptation aux catastrophes pour beaucoup de métiers. Et donc le travail social n'est pas épargné, loin de là. Alors peut-être Camille, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi et tes collègues, vous avez vécu un peu ce premier confinement ?
Ouais. Alors, comme tu disais, oui, il y a une grosse période, enfin une période d'incertitude, je dirais, d'une semaine, quand il y a eu l'annonce du confinement. Et puis, comme je bosse en association, les directives pour parvenir jusqu'à nous, ça parcourt un long chemin. Rapidement, on va dire que ça part du ministère, qui transmet au préfet. Après, les préfectures, elles s'organisent un peu avec les mairies, et puis selon les territoires, avec les associations locales et les différents services qui existent. Donc, au niveau des directeurs, quoi, ou des directrices de ces structures sociales. Et ensuite, on est en réunion d'équipe. Nous, avec nos chefs de service, on essaie de voir un peu comment on peut adapter nos pratiques avec ce qu'on nous demande au niveau des protocoles à suivre, etc., etc. Et du coup, ça ne se fait pas en un jour. Il y a des périodes d'ajustement, etc.
Et donc, du coup, en pratique, comment ça s'est mis en place, votre taf, dans ce premier confinement?
Ouais, on a tout arrêté pendant une semaine. La première semaine du confinement, on était un peu déboussolés. Après, au niveau de l'asso où je travaille, l'équipe a été réduite parce qu'il y avait des collègues qui devaient garder leurs enfants. Il y avait des collègues qui étaient à risque au niveau de leur santé, donc qui pouvaient pas venir travailler. Mais il y a quand même eu un soutien inter-service, donc des collègues d'autres services qui venaient prêter main forte. Grosso modo, il y avait deux collègues chaque jour qui étaient présents sur site, qui maintenaient une veille avec le standard téléphonique. Le reste de l'équipe était en télétravail. L'accueil de jour dont j'ai parlé tout à l'heure, ça s'est transformé en drive courrier, c'est-à-dire qu'on distribuait le courrier par la fenêtre. On distribuait aussi pas mal d'attestations de déplacement obligatoires. Et voilà, donc ça a plutôt bien marché. Et on a réussi quand même à maintenir une tournée de visite à domicile par semaine, pour aller voir les personnes les plus fragiles, celles qui n'avaient pas de téléphone, celles dont on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Et puis enfin, on a poursuivi les maraudes au rythme d'une ou deux par semaine, alors que d'habitude, on en fait quand même quatre. Et on ne distribuait pas de boissons chaudes, on prenait juste un peu des nouvelles des gens qui étaient encore dehors. Et on les informait des différentes modalités d'accueil, des structures, etc., des règles du confinement, voilà. On les informait sur leurs droits. Je sais qu'il y en a qui s'inquiétaient au niveau de leur RSA, si ça allait être coupé, s'ils ne faisaient pas les démarches, vu que les services étaient fermés. Et du coup, on les a rassurés là-dessus.
Du coup, je sais pas si tu as connu des choses un peu similaires, toi, au niveau de ton taf.
Non, moi, je rejoins un petit peu ce que dit Camille, en fait, si tu veux, par rapport au côté flou et par rapport aux directives qu'on a pu avoir. C'était assez chaotique. Nous, par exemple, tu vois, au niveau de la PREF, on avait eu un nombre limité d'effectifs réels de la structure. Tout en regroupant différents territoires entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne devait pas être un certain nombre sur la structure, mais en même temps, on avait différentes structures qui devaient bosser ensemble sur le même lieu. Donc, c'était un peu compliqué. Ce qui était pas forcément facile non plus, c'est que voilà, la préfecture avait décidé qu'on ne devait bénéficier que des professionnels nécessaires, c'est-à-dire qu'on n'avait plus d'administratif, on n'avait plus de standards. Sachant que je bosse quand même dans une structure qui est quand même assez grosse, c'était un peu compliqué de devoir tout gérer, en fait. On nous demandait aussi de faire beaucoup de téléphonique. Bon, ça, je sais pas si on va beaucoup s'attarder dessus, mais c'est vrai que le fait de faire que du téléphonique en travail social, bon, moi, j'avais du mal à voir l'intérêt. J'avais vraiment du mal à voir l'intérêt. Et on nous a demandé, effectivement, de faire du télétravail. Un télétravail qui s'est pas mis en place tout de suite, parce qu'au niveau de la réactivité de notre institution, ça n'a pas été ça. Mais du coup, en tout cas, comme tu le disais toi tout à l'heure, Camille, il y avait des professionnels qui étaient en garde d'enfants, qui étaient en fragilité au niveau médical. Donc c'est vrai qu'on a été peu, au final, présents sur la structure pour faire tourner le tout. Et tout le fonctionnement reposait sur très peu de personnes. reposait sur très, très peu de personnes. Donc c'était des périodes qui étaient vachement, vachement dures au niveau de boulot, vachement anxiogènes, et qu'il y avait, comme une certaine charge de travail, quoi.
Ouais, et donc du coup, tu dis une partie de votre taf est donc passée quand même un peu en télétravail, quoi.
Bah, du coup, le télétravail, en fait, ça s'est mis en place petit à petit. Mais le problème, c'est comme je te disais, il y a bien qu'on ait pu s'organiser, nous, entre professionnels, pour la mise en place du télétravail, bon, le souci a vraiment été que cette rotation qu'on a mis entre les collègues en télétravail et ceux qui étaient en présentiel pour au niveau des missions, parce qu'on s'est très bien dit qu'à un moment, les personnes qui étaient en présentiel ne pouvaient pas tout gérer non plus. Ça s'est fait progressivement et c'était particulièrement difficile, en tout cas, pour les professionnels qui étaient chez eux, parce que, ben, évidemment, ils étaient coupés de leur équipe, ils étaient coupés de leurs ressources, parce que nous, on travaillait toujours avec des dossiers papier. Donc, pour eux, ça a vraiment été compliqué. Et pour ceux qui étaient là en présentiel, bon, ils ont eu vraiment la sensation de porter tout un service à bout de bras, à effectuer toutes les missions, vraiment à très peu de personnes. Malgré cette sensation d'avoir les équipes qui soient scindées en deux, on a quand même réussi à faire fonctionner à peu près les choses en s'organisant, parce que voilà, la direction donnait des directives qui n'étaient pas forcément faciles à suivre. Et justement, quand la direction s'est décidée à se réveiller d'un coup, à nous donner des directives, en fait, ça fait que bousculer un mode de fonctionnement que nous, on avait mis en place et qui fonctionnait, en fait.
Ouais, forcément, quand on met des chefs, ça part en cacahuète.
Ça n'a pas été trop dit, mais c'était un peu la sensation qu'on avait.
Et sinon, personnellement, toi, faire ton taf à distance, c'est faisable ou...
Bah, moi, j'ai essayé un peu le télétravail. Après, je pense que voilà, par rapport au télétravail, on n'est pas tous égaux par rapport à ce qu'il est dans les conditions dans lesquelles on le fait matériellement, en tout cas. Moi, j'étais particulièrement mal à l'aise. C'est pas quelque chose qui m'a particulièrement botté, parce que déjà, faire du travail social par téléphone, bon, ben... Bah, le côté un peu où tu es censé être un peu humain dans le travail social, ben, il disparaît complètement. Moi, là, le constat que les collègues ont fait au niveau du télétravail, c'est que la plupart de ceux qui ont été soit exclusivement en télétravail, soit qui faisaient la plupart de leur taf en télétravail, en ont souffert, en fait. La plupart voulaient revenir, voulaient revoir les gens, et ne voulaient pas forcément passer leur temps chez eux à appeler des gens. Enfin, surtout, bon, ben, je pense par exemple aux collègues qui avaient des enfants à garder. Enfin, c'était insagérable. Moi, la seule application pratique que j'ai pu y trouver au télétravail, c'est éventuellement, bon, comme dans ce boulot-là, on a beaucoup d'écrits et de rapports à faire, c'est d'avoir une journée où tu peux éventuellement te poser, faire tes écrits, sans être interrompu. Parce que bon, le travail social aussi, c'est un travail voilà, où t'as peu de temps, où tu peux te dire, là, il va rien m'arriver.
Ouais, comme vous avez du tout venant, tout ça.
Ouais, c'est toujours, voilà, tu dois toujours avoir une certaine réactivité, en fait. Puis aussi, le problème du télétravail, moi, ça peut être évoqué là où j'ai travaillé, mais la question du télétravail, en tout cas, par rapport, je pense, là, c'est pas que la question du travail social, je pense que c'est la question enfin, de tout ce qui touche au médico-social, c'est que t'as pas forcément envie, des fois, de rentrer chez toi avec les situations, en fait. Et ça, c'est une question qui a été un peu éludée, et on nous a forcé à faire le télétravail, mais du coup, ça a été un peu compliqué aussi, un peu compliqué à gérer.
Ouais.
Aussi, au-delà de ça, ce qui était particulièrement anxiogène, c'est que voilà, on avait des rotations au niveau du personnel qui était en présentiel sur la structure. Bien qu'on ait pu avoir des masques et du gel, bon, même si au début on n'en avait pas, on a ramené les nôtres, puis ensuite, voilà, nous, notre employeur a été assez gentil pour nous en donner. Le problème, c'est qu'en tout cas, par rapport à tout ce qui était cas contact, les protocoles n'étaient pas forcément évidents à suivre. On avait des vademécum qui tombaient toutes les semaines. Enfin voilà, on n'avait pas d'instructions claires par rapport à tout ça. Et du coup, moi, je me souviens de deux fois notamment, enfin, moi, j'avais été quoi contact parce qu'une collègue qui était dans mon bureau avait chopé le Covid. Ça a été, ben, tu pars chez toi en stress, tu quittes le boulot en catastrophe et tu vas aller faire un test PCH en prévenant tes collègues, quoi. Donc, c'est des situations qui ne sont pas forcément évidentes à gérer. Par le bon sens, si tu veux, on est un peu resté chez soi et au bout d'une dizaine de jours, on revenait au service. Mais bon, pour la petite anecdote, moi j'ai fait un test PCH en partant du boulot, j'ai toujours jamais eu les résultats.
Ouais. C'était bon. Il y a un moment, quoi.
Ouais, ça fait bien 6 mois quand même. J'aurais bien aimé les avoir, ça aurait été sympa. Mais.
Et. Donc,
pour donner une autre anecdote, si tu veux, enfin, par exemple, un lundi matin, c'est voilà, on est sur une équipe d'une vingtaine, on est 7-8 en présentiel. Il y a une collègue qui nous apprend qu'elle a chopé le Covid. Bon, ben, tu as 5 personnes qui étaient cas contact et qui, du jour au lendemain, se barrent du service et tu te retrouves à 3 sur le service. Tu fais OK, ça va être une bonne journée.
Ouais, j'imagine, ouais. Mais alors, également, vous bossez avec d'autres institutions, parce que vous ne bossez pas tout seul, puisque, comme tu disais, vous renvoyez aussi les gens pas mal ailleurs. Enfin, vous les redirigez plutôt que renvoyer, c'est un peu violent.
Orienté. Faire le
et orienté. Du coup, comment ça s'est passé avec ces autres institutions?
Ben, du coup, moi aussi, la spécificité de mon travail, c'est qu'effectivement, voilà, comme on a l'obligation de continuité du service public, on reçoit toujours des gens, ce qui n'a pas forcément été le cas de toutes les institutions. On a eu énormément de mal à travailler avec les partenaires institutionnels habituels, si tu veux. Bien qu'on ait rouvert rapidement, ça n'a pas été le cas de tous nos partenaires. Donc effectivement, on a eu un flux de personnes qui sont arrivées parce qu'il y a eu des soucis avec, pour les nommer, enfin voilà, la CAF, Pôle emploi, les caisses de retraite, la NDPH, etc., qui ne donnaient pas de nouvelles, qui ne donnaient pas de réponses par rapport au courrier, déjà que d'habitude, ils ont du mal à en donner. Et nous, on se retrouvait à devoir un petit peu essayer de gérer un petit peu tout ça sans forcément avoir de liens privilégiés avec ces institutions-là, qui en plus, voilà, ne donnaient pas de réponse non plus. Les seuls vraiment qui ont vraiment continué, c'était vraiment tout ce qui était associatif. Tout ce qui était associatif sur le terrain, là, on savait qu'on pouvait compter dessus.
Ouais.
Mais bon, il y avait le souci, c'est qu'en fait, toute cette période, t'avais eu quand même une angoisse qui était assez particulière, en fait, que ça soit au niveau de nous. Enfin bon, voilà, je pense que tout le monde l'a vécu. Hein, c'est pas le souci, mais si tu veux, cette angoisse qui était aussi bien présente chez nous comme chez les personnes qu'on reçoit et chez les professionnels de manière générale. Moi, dans les échanges que j'avais avec les partenaires institutionnels, il y a eu beaucoup de prises de bec, beaucoup d'engueulades, et des interlocuteurs que tu avais pour discuter, parce qu'on bosse jamais tout seul dans le social, hein, des interlocuteurs que tu avais où ben, d'un coup disparaissaient et tu avais le sentiment de devoir vraiment te débrouiller tout seul.
Ouais. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu parlais justement d'avoir plus de facilité à interagir justement avec. Les associations, quoi. Alors, peut-être que on va peut-être redonner la parole un peu quand même à Camille, hein, justement sur ces questions-là, qui a peut-être des choses à nous dire.
Oui, bah, je rejoins assez Fidèle sur tout ce qu'il décrit. Nous, c'était un peu pareil, on a dû s'adapter à qui est ouvert, qui est fermé, qui fait quoi, etc. Et moi, je voulais parler d'une autre activité importante dans le travail social qui sont les actions collectives. Donc les actions collectives, ça, c'est un travail qui se fait pas dans toutes les structures de travail social, mais c'est pour ceux qui considèrent que l'accès aux droits de manière générale, ça comprend aussi l'accès à la culture, à la vie culturelle. Et du coup, à travers les actions collectives, on tente de promouvoir un droit à la ville pour des personnes qui sont souvent exclues des offres culturelles qu'on rencontre. Et ça permet aussi aux personnes de rompre la solitude de la vie en précarité. Donc, ce qu'on appelle les actions co, ça va être des activités en groupe, donc de 4 jusqu'à une vingtaine. Ça peut être des ateliers cuisine, des ateliers écriture. Nous, dans notre asso, on a un atelier théâtre qui marche bien avec une vraie troupe qui fait des représentations dans des salles de théâtre lambda, quoi. C'est assez chouette. Il y a aussi des sorties à la montagne, des sorties au cinéma, et c'est des activités qu'on construit avec les personnes qu'on accompagne et selon nos envies communes.
Ouais. Et alors, du coup, tu nous dirais pourquoi ces actions-là sont aussi importantes dans votre travail ?
Ouais, c'est important à la fois pour les professionnels et à la fois pour les personnes accompagnées. Pour nous, ça nous permet de sortir la tête de l'eau, de rencontrer différemment les personnes qu'on accompagne. Ça permet de partager des moments conviviaux ensemble, donc ça décale un peu le rapport juste administratif, je t'aide dans tes démarches et voilà. Ça permet de casser le rythme qui oscille habituellement entre des démarches qui prennent 3 mois à être traitées et des urgences à régler dans l'immédiat. Je pense que c'est un peu le quotidien de chaque travailleur social. On a beaucoup de gens qui perdent leurs clés, qu'il faut faire les clés dans l'après-midi, etc., etc. Et pour les personnes accompagnées, du coup, bah, c'est aussi une bouffée d'air frais dans leur quotidien. C'est souvent l'occasion de manger un bon repas. Là, on aurait bien aimé, c'est la période des raclettes, mais on peut pas. Et ça permet surtout, moi je pense, aux personnes de se raconter autrement que dans le récit administratif qu'elles ont l'habitude de répéter à longueur de journée à tous les travailleurs sociaux et les autres interlocuteurs qui bossent. Et du coup, grosso modo, je dirais qu'on fait des actions collectives pour se faire plaisir. Mmh. Et avec les mesures sanitaires à respecter, c'est plus trop possible. C'est dommage.
Ouais, non, mais là-dessus, moi aussi, hein, au niveau de l'endroit où je bosse, c'est vrai que le confinement, ça signe vraiment la fin des actions collectives. Après, par rapport à toi, je pense que moi où je travaille, on en a moins, même si on en fait un petit peu, on essaye quand même d'en faire un petit peu. C'est vrai que, enfin, je te rejoins vraiment sur ce que tu as dit, c'est vrai que nous, au niveau de notre travail, c'est un outil qui nous permet vraiment de sortir un petit peu de notre routine et de la manière un petit peu, voilà, de ce rôle un petit peu, moi en tout cas pour moi, de ce rôle un peu monotique, l'assistante sociale qui reçoit des gens dans son bureau. Ça permet de faire autre chose avec les gens. Ça permet vraiment de faire autre chose. Et du coup, le fait de plus avoir ça, de bosser en téléphonique et de plus avoir cet outil-là, moi je trouve que ça fait pas mal de mal à ma pratique en tant que travailleur social. Voilà. Moi, j'ai vraiment la sensation, ces derniers temps, d'avoir été juste un guichet ou une plateforme téléphonique où les gens arrivent, où tu peux plus, enfin, tu fais plus vraiment du vrai travail social.
Ouais. Alors, on va conclure ce segment, je pense. Alors, pour terminer sur cette question des conséquences du confinement sur le travail social en lui-même, on a décidé de vous lire un court texte qui nous a été envoyé. Donc par Guillaume, qui est éducateur en IME, donc un institut médico-éducatif, et donc qui exprime comment lui et ses collègues ont vécu le confinement dans sa structure. Donc je vais vous lire ça. Je suis éducateur spécialisé dans un établissement médico-éducatif. C'est une structure qui accueille une soixantaine de jeunes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Le quotidien des jeunes accueillis en temps normal est rythmé par des temps de classe et d'atelier en journée et de l'internat en soirée pour une majorité de jeunes. Notre travail consiste à accompagner les jeunes par l'intermédiaire de supports de médiation, ateliers éducatifs, par les temps clés du quotidien, lever, repas, soirée, et de travailler avec l'entourage du jeune, famille, service, association sportive, etc. La majorité de notre travail est donc, hormis les réunions et les temps alloués au travail personnel, en présentiel avec les jeunes. Autant vous dire que le premier confinement a eu un impact sur notre travail et nous a obligés à nous adapter à ces nouvelles contraintes. La semaine suivant l'annonce du premier confinement, l'établissement a fermé ses portes à l'accueil des jeunes. La question en suspens lors des premiers jours étant la présence de l'ensemble du personnel sur le site. Au final, seule une présence des agents polyvalents de temps en temps pour entretenir et adapter notre lieu de travail a été retenue. Nous sommes donc retrouvés tous en télétravail. Nous nous sommes répartis les 10 situations afin que chaque professionnel puisse garder le contact avec les jeunes et les familles. Nous avons convenu de la fréquence de contact avec chaque famille. Cela variait entre appels quotidiens avec certaines familles à des appels une fois toutes les deux semaines avec les familles d'accueil. Les deux premières semaines se sont passées dans une sorte de flou, car hormis les appels, la rédaction de bilan et le lien entre nous, nous ne savions pas trop quoi faire. On n'avait pas vraiment l'impression de faire notre travail. Après ces deux semaines, des visites à domicile ont commencé à se mettre en place et nous avons ouvert quelques lits d'internat à disposition des jeunes pour qui la situation familiale était la plus tendue. Au final, les jeunes et les familles ont réussi à bien composer, car un seul jeune de notre structure a eu besoin de l'internat d'urgence. Dans l'absolu, je n'ai pas eu l'impression d'avoir bien fait le travail pour lequel j'ai été embauché à la base. Je n'ai jamais non plus autant justifié de chaque chose que je faisais. En effet, on sentait que l'ARS était derrière notre direction et voulait des comptes, des actes, bien plus que d'habitude. Paradoxalement, c'est au moment où on est le plus empêché de faire correctement notre travail, qu'on doit le plus le justifier. Donc ça rejoint vraiment pas mal tout ce que vous nous avez dit. Donc on remercie grandement Guillaume pour son témoignage, qui nous permet de faire avec une grande élégance la transition vers la deuxième partie de l'émission qui sera centrée donc sur les conséquences de tout ça, hein, donc les conséquences pour les premiers concernés par le travail social, les usagers. Mais avant de passer à la suite, on va faire une petite pause musicale avec Solid Gold de Miami Slice. We'll be right back. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes bien sur Radio Pirate. Ce soir, on discute de travail social avec Fidel et Camille. Et plus précisément, on discute des conséquences du confinement pour les personnes qui ont recours à l'aide des travailleurs sociaux. Alors, Fidel, est-ce que tu veux ouvrir et nous dire un petit peu ce que tu as pu observer dans ton quotidien à ce sujet ?
Alors, je veux bien ouvrir, mais il faut que je fasse une remarque, c'est que ta sélection musicale est juste fantastique.
Merci.
Franchement, c'est juste impressionnant et je pense que tu as une compétence là-dedans.
C'est vrai.
C'est magique. Tu es magique.
Je te referme la
radio. D'accord.
Non, bon alors sinon, pour reprendre sur la question que tu as posée, oui, parce que voilà, on va aborder des trucs qui sont pas super fun. Bon, il y a un constat général, c'est que clairement, enfin, on était déjà, en fait, si tu veux, dans une période où c'était assez difficile pour les populations précaires. Bon, le Covid a effectivement rien arrangé. Hein. J'ai chopé ce chiffre-là de par ma direction et je pense qu'il est assez significatif. C'est que depuis le début de l'année, et je pense que depuis le début du mois de mars, parce qu'on n'a pas la date exacte, mais par exemple, là, moi, sur le territoire où je travaille, on est à plus de 12% de bénéficiaires du RSA. Ce qui est complètement dingue par rapport aux fluctuations du nombre de bénéficiaires qu'on peut avoir d'année en année, en fait. Moi, une conséquence que j'ai remarquée aussi, c'est que toutes les personnes qui avaient des contrats précaires, donc des temps partiels, des CDD, se retrouvaient dans des situations extrêmement compliquées. Voilà, c'est les premiers à avoir subi les licenciements, sans possibilité de chômage partiel. Pas mal d'indépendants aussi se retrouvaient sur le carreau. Moi, j'ai reçu des gens voilà, qui m'ont dit très clairement qu'ils n'avaient jamais fait appel à une assistante sociale auparavant. Au-delà aussi, pour un premier constat sur les conséquences qu'on a pu avoir sur les personnes, c'est que nous, le travail social, tu reçois des gens et t'essaies d'un minimum d'être humain avec les personnes. Hein. Là, les conséquences, c'est-à-dire le fait de mettre le masque, le fait de mettre des plexis dans les bureaux, de devoir filtrer par téléphone, est-ce que les gens viennent ou pas, etc. Ça a été vachement difficile. Enfin, pour te donner un exemple, au tout début du confinement, comme on savait pas trop ce qu'il en était du Covid, les gens nous donnaient des justificatifs, des papiers pour qu'on fasse des demandes, des dossiers, etc. On nous demandait de mettre les dossiers dans une bannette pendant 48 heures avant de les reprendre derrière. Donc c'était juste complètement aberrant, en fait. Sur les délais de traitement des choses, c'était juste aberrant. Et clairement, ça n'a pas été respecté. Il arrive un moment où on faisait quand même les choses. Mais oui, voilà, ça a été une période. Enfin, et toujours aujourd'hui, c'est une période assez compliquée.
Ouais, moi je te rejoins aussi Fidèle là-dessus, nous notamment au niveau des maraudes, mais même de manière plus générale, rien que le fait de plus pouvoir serrer les mains des gens, on perd du lien social alors que c'est le cœur de notre métier. Et quand on serre la main à quelqu'un qui vit seul dehors, qui n'a pas de contact trop humain avec d'autres personnes, je peux vous assurer que le contact physique d'une poignée de main, c'est très très important, quoi.
Ah non, mais t'as raison. Enfin, pour moi, ça désémanise complètement en fait les rencontres qu'on fait. En fait, et là, on est vraiment sur une période où, enfin, normalement, on est censé, ça fait partie de nos missions, de nos compétences, d'accueillir les gens. Et là, en fait, on est complètement bridé là-dessus. En fait, après, voilà, je remets pas en question la nécessité un petit peu de tout,
oui,
ces gestes-là. Mais c'est vrai que par rapport aux conséquences que ça a sur le travail, et en tout cas pour les gens, c'est parfois un peu compliqué. Moi, les personnes que j'ai souvent sont assez frustrées. Hein. J'ai beaucoup de gens qui en entretien enlèvent le masque, disent qu'ils m'entendent pas,
oui,
ils veulent que j'enlève, parce qu'ils veulent voir un petit peu ma babouche quand je parle, etc. Après, bon, moi, comme je vois, voilà, j'accompagne aussi des personnes depuis plusieurs années maintenant. C'est des choses, je peux essayer d'en rire avec les personnes un petit peu. C'est un peu plus délicat, évidemment, quand tu reçois des personnes que tu connais pas.
Oui.
Mais il y a vraiment une perte. Pour moi, tu as vraiment une perte au niveau
je ne sais pas si de ton côté, vous avez essayé les visières. Nous, on a essayé les visières, donc tu peux voir le masque. Enfin, tu peux voir le visage, pardon. Mais sauf qu'on nous a un peu dit que ça ressemblait à des CRS. Donc la comparaison n'était pas terrible. On a vite remis le masque.
Ouais. Tu as été un motard de la brave, oui. Mais oui, c'est, enfin, après pour rebondir sur ce que tu dis, moi je pense pas que pour les personnes ce soit super motivant d'aller voir des robots, quoi. D'aller voir des personnes qui sont derrière un plexi ou qui vous appellent juste par téléphone, pour moi, je pense pas que ça va être super, super motivant. Bon, et c'est des choses qui ont pu m'être exprimées aussi. Une des choses aussi que j'ai remarqué, c'est que bon, ce contexte de Covid, c'est bon. L'angoisse qui a été générée était assez générale. Hein. Tout le monde était angoissé et encore angoissé par cette période. Moi, le truc qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est que plus personne n'arrive à se projeter. Et c'est un peu compliqué. Travailler sur un futur éventuellement où les choses pourraient aller mieux avec les personnes, c'est vachement compliqué de travailler là-dessus. Là, je pense aussi aux personnes, par exemple, qui sont atteintes de pathologies graves, qui ont plus envie de se soigner. Il y en a certaines qui ont plus du tout envie de se soigner ou qui ont peur d'aller se soigner à cause du Covid, justement.
Oui, puis nous, l'accès aux soins de manière générale est compliqué et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne veulent pas aller chez le médecin parce qu'ils ont peur d'attraper le virus dans les salles d'attente ou ce genre de discours, quoi. Donc c'est compliqué à gérer.
Et alors, je suppose, au niveau, il y a eu potentiellement des conséquences au niveau de certains types de demandes, certains types de... parce qu'on a eu notamment pas mal d'associations féministes qui ont tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation des violences conjugales ou les choses comme ça.
Oui, effectivement, en fait, si tu veux, enfin, moi, bon, je ne passe pas dans une association, mais ça fait quand même partie des publics qu'on reçoit et qu'on accompagne. Tout ce qui est, par exemple, violence conjugale, ça a été vachement compliqué parce qu'effectivement, en fait, si tu veux, dans la période de mars à mai, où d'habitude, voilà, on a quand même un flux assez constant de personnes qui sont victimes de violences, là, de mars à mai, on n'a quasiment rien reçu, on n'a quasiment pas eu d'appel. Par contre, au déconfinement, au 11 mai, ça a été extrêmement difficile au niveau du flux de personnes qu'on a reçues, en fait. Si tu veux, toutes les femmes qui étaient victimes de violences, en fait, ont supporté pendant cette période-là, et au 11 mai, enfin, moi, de ce que j'ai constaté, après, je dis pas que le constat est général pour tout le monde, mais en tout cas, nous, de ce qu'on a constaté sur le service, c'est qu'à partir du 11 mai, on a eu un moment de situation de violence conjugale et de personnes qui sont présentées au service. T'as eu un flux vraiment très important. J'avais envie de faire le parallèle aussi par rapport à ce qui était aussi violence intrafamiliale au niveau de la protection de l'enfance, parce que bon, même si moi je n'exerce pas dans ce milieu-là, effectivement, je fais les évaluations. On a eu beaucoup de signalements pour enfants maltraités, aussi à la sortie du confinement. Donc déjà sur des services, donc la sociale enfance qui sont assez débordés en temps normal, il n'y a clairement plus assez de moyens, plus assez de personnel pour traiter toutes ces situations-là, en fait.
Ouais.
Pour faire les évaluations, pour gérer un peu les choses, c'est devenu extrêmement compliqué. Il y a des familles qui ont complètement implosé.
C'est aussi un constat général sur plusieurs années de mécanismes. Et du coup, alors, je vais avancer un petit peu parce qu'on est un peu, voilà, on a plein de choses à dire, hein, mais comme toujours, on est bloqué un peu par notre créneau. Camille, peut-être, est-ce que tu as des éléments à nous dire, des constats que tu as fait pendant le confinement, pendant ou après, au niveau des personnes qui ont pu être accompagnées par l'asso ou des choses comme ça, les personnes qui sont à la rue?
Nous, on a eu très peur parce qu'en plus, on était une ville très touchée par le virus et la santé des personnes qu'on accompagne est souvent très fragile. La plupart, en plus, vivent dans des petits studios ou alors dans des chambres, dans des centres collectifs. Et donc, pour eux, c'est pas possible de rester la journée entre quatre murs. Y en a même qui nous disent que ça leur rappelle trop leurs cellules de prison. Donc, au final, c'est plus les travailleurs sociaux, l'équipe qui a stressé, parce que ce sont les personnes qui sont venues nous voir en voyant encore l'accueil de jour ouvert et qui nous ont dit « Mais arrêtez, il faut fermer, tout le monde ferme à côté, rentrez chez vous, prenez soin de vous et de vos familles. » Donc ça, c'était assez touchant, cette bienveillance et cette solidarité, malgré qu'on soit professionnel et eux non. Et pour les personnes qui ont rencontre à travers les maraudes, qui sont dans la rue, qui sont soit dans la rue parce qu'ils y traînent ou soit parce qu'ils n'ont pas de logement, ça n'a pas tant bouleversé leurs habitudes de vie parce qu'ils vivent déjà tout le temps, jour le jour. Tout à l'heure, Fidel, tu parlais du fait de se projeter. Ouais. C'est pas tant un souci pour elles. Et en plus, une des bonnes nouvelles, c'est que l'urgence sanitaire a permis de trouver de l'argent magique pour héberger toutes les personnes sans abri, en tout cas dans ma ville. Après, on peut se demander pourquoi l'urgence habituelle des personnes qui sont sans logement ne permet pas de débloquer ces fonds. Mais voilà.
C'est vrai que ça aurait été intéressant. Bon, je ne sais pas si on aura trop le temps, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi de faire le lien, donc justement par rapport à ce que tu parlais du logement et des démarches en fait d'accès au logement social. Parce que bon, moi, j'exerce sur un territoire qui est assez tendu au niveau du logement, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire par ce qui s'est passé. Il y a aussi le fait que voilà, je parlais tout à l'heure de violences conjugales et des difficultés aussi à trouver des alternatives, en tout cas pour les personnes qui sont victimes de violences et pour se protéger. Donc il y a des choses qui existent, mais c'est vrai que bon, malheureusement avec le confinement, ça a été pas mal impacté. Il y aurait pas mal de choses qu'on pourrait aborder, hein,
oui.
Que ce soit au niveau de la fracture numérique, que ce soit au niveau de l'isolement social, des personnes, moi je vois pas mal de personnes âgées aussi, hein, en ce moment ça a été compliqué pour elles. enfin voilà, il y a pas mal de thématiques qu'on pourrait aborder. Je ne sais pas si, si on a le temps, je ne sais pas sur quoi on passe du coup.
On ne va pas avoir le temps, là. Il va falloir qu'on avance, on s'approche de... on se rapproche de la fin du temps qui nous est imparti.
Si je puis me permettre, ouais. Juste sur la question du logement, il me semble qu'il y aura une émission aussi sur Radio ouais. Pirate qui sera prévue sur l'accès au logement et à l'hébergement un peu plus tard.
Peu, ouais. Ça pourrait être chouette de pouvoir
ouais. Là, c'est un petit teasing.
C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Alors, on aurait bien aimé aussi discuter un petit peu hein, de comment... comment dire quoi. À voir si vous aviez des idées, des réflexions sur comment on aurait pu gérer différemment ces situations de crise, etc. Mais bon, hélas, on ne va pas trop pouvoir en parler. Alors, avant de conclure, obligation syndicale, je suis obligé de vous passer une cassette qui a un mec chelou avec un peu de cache-œil qui est venu déposer.
Moi, les cache-œil, donc je vois pas de problème.
Voilà, donc ça me paraît essentiel de vous la passer, sachant que ça va un peu détendre l'atmosphère parce qu'on parle quand même de sujets un peu... Un peu triste.
Dans le travail social, non.
Ahoy ! Meilleur squelette à bord !
C'est pas parce qu'on se bat pour un idéal qu'on est forcément brutal. Et c'est pas parce que ce qu'on fait, c'est pas légal qu'on est forcément radical. Excusez-moi. Ouais. Je disais quoi déjà ? Ah oui, brutal, radical. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mettre ces mots-là, c'est ce que font les gens qui veulent nous dénigrer. Le gouverneur, par exemple, il dit qu'il faut tous nous chasser... Parce qu'on est brutal, qu'on va tout casser. Le gouverneur, il exploite la peur. Il dit qu'on menace les gens, alors qu'en vrai, on menace que lui. Hein. Mais il dit qu'on va tout casser, qu'on va tout changer. Il joue sur le fait qu'on accepte plus facilement ce qu'on connaît déjà. On est rassuré. Peut-être pas parce qu'on aime la situation, hein, mais parce qu'on la connaît. Brutal. Radical. Alors brutal, ouais, on l'est. Et on est obligé si on veut continuer à pas être dirigé par un gouverneur, ou si on veut pouvoir partager le rhum. Radical ? Bah, je sais même pas ce que c'est. À moins que ce soit parce qu'on est tellement différent que pour se mettre dans nos bottes, ça implique un changement qui est radical. Eh, c'est pas facile d'imaginer un changement radical. Brutal. Rien que le mot, il donne l'impression que le sang va couler. Quand tout ce que tu connais, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est radical de faire ne serait-ce qu'un pas de côté. On voudrait pas risquer de perdre le peu qu'on a. Hein. On espère que nous aussi, un jour, on va décrocher la timbale. Bon, en attendant, on préfère la confortabilité. Un changement radical, ça fait peur. Hey, pirates, on veut juste nous faire passer pour des truands et dire qu'on est menaçant, alors même qu'on fait juste ce qu'on peut. Ouais, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on peut, ça implique de devoir se battre. Brutal. Radical.
Corsaire fantôme à primaire.
Ah, et puis en vrai, on s'en fout de comment on nous désigne. L'action est plus forte que la parole. L'important, Moussaillon, c'est pas ce que tu grognes. L'important, c'est sur quoi tu cognes.
Bah c'était pas mal ce petit extrait là, cette petite chronique. Alors malheureusement donc on s'approche du temps, même on a dépassé hein, le temps qui nous est imparti. Il va falloir qu'on conclue. Alors encore une fois on s'excuse parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire et c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, qui est souvent assez invisible. Donc peut-être qu'à l'avenir on pourra en reparler, hein, pourquoi pas. Alors on va amener quand même doucement notre conclusion. Donc peut-être un mot de la fin, Camille.
Ouais, on a pas mal parlé pendant du coup l'émission des limites de nos institutions, des exacerbations, des difficultés rencontrées à la fois par les professionnels et les personnes accompagnées. On s'est peut-être un peu plaint sur certains trucs, mais il faut savoir que selon l'endroit où vous vivez, il y a des aides qui existent et qui peuvent vous soutenir financièrement ou non si vous êtes dans une situation. Donc surtout, il ne faut pas hésiter d'aller rencontrer des assistantes sociales dans les services de la mairie ou dans des associations. Même si vous vous dites « ma situation, ce n'est pas la pire, il y a des gens qui sont plus dans la galère que moi, etc. » Après, on sait à notre niveau que ce n'est jamais facile de faire ces démarches, qu'on ne se sent pas forcément légitime pour aller demander de l'aide ou des informations sur nos droits. Et du coup, n'hésitez surtout pas à aller prendre un rendez-vous quelque part si ça devient compliqué pour vous au quotidien.
Merci.
Merci.
Donc voilà, ça va être tout pour nous. On espère que cette émission vous a plu. Alors on va vous remercier d'avoir été présents, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté nos deux intervenants de qualité. Donc on va remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette émission possible. En premier lieu, Fidel et Camille, sans qui cette émission n'aurait pas pu exister. Également merci. Guillaume.
Je voulais rajouter. C'était sympa de nous accueillir, du coup, merci.
Bah oui.
Oui, avec merci plaisir. De nous avoir donné cet espace de parole.
On remercie également Guillaume qui nous a envoyé son texte que j'ai lu tantôt. Bien sûr, on remercie Yanonyme qui s'est occupé de la technique ce soir et qui a fait un super boulot. Gaël pour la modération du Twitch. Et on remercie aussi Kéris pour sa chronique que vous avez entendue tout à l'heure. Toujours de meilleur goût. Donc, merci encore à vous toutes et tous et passez une bonne soirée.
Ciao les pirates, à la prochaine.
Salut les pirates.